ce matin sur le sujet de la guérison divine. On a souvent entendu parler de la guérison divine dans toutes les religions. Il est question parfois de miracles, de guérisons miraculeuses, d'interventions surnaturelles. Ce sont des termes qui souvent reviennent. Et puis, on a aussi l'occasion aujourd'hui, ne serait-ce qu'en ouvrant quelques journaux et en regardant quelques publicités, de voir là également des promesses de personnes qui vous disent « Mais si vous nous téléphonez, on passera un temps avec vous et vous aurez, eh bien, vous aurez de l'avenir, vous aurez des promesses, vous aurez des choses qui vont s'accomplir dans votre vie. » Nous vous promettons une certaine forme de guérison ou ceci dans tel domaine, etc. Et puis les journaux sont pleins de ce genre de publicité. Alors j'aimerais un petit peu avec vous parler non simplement de cela, mais la Bible nous parle aussi de guérison. Pourquoi c'est si combattu aujourd'hui dans le sens où il y a beaucoup de confusion? Eh bien tout simplement parce qu'il y en a un qui ne veut pas que Dieu accomplisse son œuvre sur cette terre. C'est l'ennemi, comme la Bible l'appelle, l'ennemi de notre âme. C'est pas un homme, c'est pas une religion, ce n'est pas un peuple. La Bible l'appelle tout simplement Satan, le diable, appelez-le comme vous voulez, peu importe. Et lui est là tout simplement pour mettre dans le cœur des hommes et des femmes de la confusion, du doute, de l'incrédulité. Essayez de perturber nos cœurs. Pourquoi ? Pour que nous ne puissions pas saisir simplement ce que Dieu a mis à notre disposition, qui est réel, qui est concret et qui se manifeste encore aujourd'hui dans notre vie. Alors, dans cette deuxième partie, nous avons vu ce matin ce qu'était la maladie, les différentes formes de maladie, et cet après-midi, nous allons voir ensemble ce qu'est que la guérison divine. Alors la définition, déjà pour commencer, de la guérison divine est la suivante, c'est l'action, quand vous prenez le dictionnaire, de recouvrer la santé. Ça, c'est la définition du dictionnaire. Il y a, nous devons comprendre cela, différentes formes de guérison. Différents moyens par lesquels une guérison peut intervenir dans notre vie. La première que nous pouvons trouver, c'est la guérison médicale. Et la science, la médecine, apporte aujourd'hui à l'humanité un soulagement à la misère du monde, à la misère humaine. Elle fait un travail excellent. Et même en tant que pasteur, croyant, en tant que tout simplement homme de foi, homme d'église, nous nous opposons nullement à la médecine ou à la science. Au contraire, la Bible n'est pas contre la médecine, n'est pas contre les médecins, n'est pas contre la science. Au contraire, la Bible nous enseigne un équilibre, une marche à suivre. D'ailleurs, quelques versets pour vous faire voir tout simplement que même dans la Bible, les médecins sont nommés. Par exemple, dans Exode chapitre 1er, il nous est dit qu'en Israël, il y avait des sages-femmes. Vous direz, mais ça, c'est quand même la base un peu de tout, hein. Ben oui, parce qu'il y a beaucoup qui ne seraient pas là autrement aujourd'hui, hein. Mais chez eux, déjà à l'époque, donc à l'époque de l'Exode, il y avait des sages-femmes. Mais il est dit également dans Deux Chroniques, le roi Asa, par exemple, qui avait les pieds malades, et il ne consulta pas Dieu, mais les médecins. Donc déjà à l'époque, il y avait aussi des médecins. Matthieu 9, 12 nous dit que Jésus fait référence également aux médecins de l'époque. Vous connaissez aussi cette histoire, certainement, si vous lisez de temps en temps la Bible. Cette femme, un jour, qui est venue vers Jésus, cette femme à la perte de sang, on en a parlé un petit peu ce matin. Qu'est-ce que la Bible nous dit de cette femme-là? Eh bien, qu'elle avait dépensé toutes ses économies, tout son argent à aller voir des médecins pour essayer de lui trouver une solution, mais malheureusement, aucune solution médicale n'a pu lui être apportée. J'aimerais dire que parfois aujourd'hui c'est encore malheureusement comme cela. C'est vrai que si la science pouvait et la médecine pouvaient répondre à tout, ce serait formidable. Mais il faut bien constater que malheureusement il y a des situations où la médecine ne peut plus répondre, ne peut pas répondre. Pourquoi ? Eh bien parce que ça dépasse d'abord notre entendement, notre compréhension, ça dépasse notre intelligence et il y a des choses que nous n'arrivons pas à expliquer. La Bible n'est pas contre la médecine puisque Jésus lui-même nous dit que dans ses apôtres il y avait Luc et Luc était le médecin. Dans Colossiens chapitre 4 et le verset 14. Nous voyons donc que de tout temps les médecins existaient et étaient tout simplement en fonction. Nous ne rejetons pas donc la médecine. On remarque que, d'ailleurs ceux qui la rejettent sont souvent, et je parle des croyants, qui rejettent la médecine en disant, je dirais, faire peut-être parfois un excès de spiritualité ou de tout spiritualiser. C'est souvent eux qui vont chez le dentiste ou qui portent des lunettes. Mais ça, c'est un autre problème. Alors, il y a différentes formes de guérison. Il y a la guérison donc médicale, on en a parlé. Et puis, il y a une autre guérison qui existe également, c'est la guérison occulte. Je l'appellerai comme cela. Alors, pourquoi occulte? Eh bien, quand il est question, notamment, des guérisseurs, quand il est question de radiesthésistes, de magnétiseurs, toutes les sciences occultes, la magie qui existe aujourd'hui, ce que nous appelons la nécromancie, qui est l'évocation des morts, l'évocation des esprits, l'astrologie, la divination, bref, toutes ces choses. La cause de cette forme de guérison reste un mystère. Ça reste caché, ça reste secret, c'est mystérieux, et très souvent, les conséquences sont excessivement néfastes sur le plan spirituel. Et déjà, ces choses se passaient. Dans Galates 5.20, il nous est dit qu'il existait de la magie. Dans Matthieu 24, il nous est parlé de la séduction. Et Dieu nous prévient sur ce qui va arriver. Et il nous dit, il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus, c'est-à-dire les croyants, les chrétiens, ceux qui un jour ont découvert Dieu, se sont engagés à le suivre par la foi. Mais voyez, la séduction de l'ennemi veut nous amener jusqu'à être séduits. Séduits par quoi? Eh bien, par des manifestations de puissance, de guérison, de transformation, etc., etc. Une autre source également, toujours dans le domaine occulte, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8, il nous est dit que l'impie paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Il est question ici, directement même, de l'esprit de Satan qui agira. Et il est dit, par le souffle de sa bouche, et qu'il écrasera, par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes, écoutez bien, de miracles, de signes, et de prodiges mensongers. Avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Alors, ça ne veut pas dire que, parce que le diable cherche aussi à faire des guérisons, des miracles, des prodiges, que nous devons alors exclure les miracles, les prodiges, les guérisons, en, encore une fois, manquant d'équilibre et en disant, finalement, comme ça, le fait d'exclure, nous, on se tient à côté et on est tranquille. Non, puisque la Bible parle aussi de guérison divine. La Bible parle également de l'action de la puissance de Dieu. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces formes de guérison sont nullement divines. Et j'aimerais vous expliquer tout simplement que le diable ne guérit jamais gratuitement. Alors vous allez me dire, mais c'est pas tout à fait juste ce que vous dites, parce que moi je suis déjà allé voir un guérisseur, un magnétiseur ou autre, mais certains m'ont même pas pris d'argent, donc vous voyez, c'est pas pour l'argent qu'ils le font. Et puis certains vont vous expliquer même que c'est plus fort qu'eux quelque part, ils ont reçu un don. Et puis ce don qu'ils ont, c'est uniquement pour faire du bien. C'est pas pour faire du mal, c'est uniquement pour faire du bien. Alors pourquoi pas y croire? Pourquoi pas l'accepter? Et ça, c'est la confusion extraordinaire que le diable a trouvée pour essayer de confondre justement la vérité de l'évangile et pour essayer de mettre le trouble dans le cœur de l'homme. On peut consciemment ou inconsciemment faire l'œuvre du diable, de l'ennemi. Combien sont ceux qui un jour se sont rendus compte qu'ils étaient dans l'erreur et pourtant pendant tant d'années ils pensaient qu'ils avaient raison, mais à un moment donné, un jour dans leur vie, je ne parle pas simplement du domaine spirituel, je parle de n'importe quel autre domaine, à un moment donné dans leur vie il s'est passé quelque chose, ils ont compris, ils pensaient que, et puis finalement ils se sont rendus compte que non, ce qu'ils pensaient, ce qu'ils vivaient ou ce qu'ils faisaient n'était pas juste, n'était pas bien, c'était faux, ils étaient dans l'erreur. Ils ont compris à ce moment-là. On pourrait dire que même si jusqu'à présent ils étaient convaincus du bien fondé de ce qu'ils faisaient ou de ce qu'ils pensaient, ils étaient certains d'avoir raison et d'être dans la bonne voie. Pourtant, ils étaient bien dans l'erreur. Je prends souvent l'exemple d'un personnage qui se trouve dans un train. Son désir, c'est de partir d'Andrézieux et d'aller jusqu'à Paris. Le seul problème, c'est qu'il est dans un train en direction de Marseille. Mais parce que sur son billet, il y a marqué Paris, il est convaincu qu'il va à Paris. Moi, quand j'étais gamin, je prenais souvent le train, je partais du département de l'Ain, j'allais sur la région Rhône-Alpes, sur Lyon, quand j'étais à l'école, et il m'est arrivé une fois ou deux de me tromper. Et vous savez, tant que vous ne réalisez pas que vous vous trompez, mais vous n'êtes même pas affolé, hein. Vous n'êtes pas effolé, vous n'êtes pas excité, vous n'êtes pas énervé, vous êtes en paix, vous êtes tranquille. Vous pensez que vous êtes dans la bonne direction. Jusqu'à un moment où vous regardez le nom d'une gare et vous dites « Oh là !» Je ne l'ai pas vue habituellement sur mon parcours, celle-là. Et même quand je regarde le papier, elle est à l'opposé de l'endroit où je dois aller normalement. Et on se tend, à ce moment-là, on commence à réfléchir, on se dit « Mais il y a peut-être un problème. » Dans le domaine spirituel, c'est la même chose. On marche avec nos conceptions, on marche avec nos idées, on marche avec nos pensées, on marche avec certaines convictions, et puis on se dit à un moment donné, mais est-ce que c'est bien là? Alors, vous rencontrez peut-être des croyants, des amis qui vous disent, mais peut-être tu devrais venir écouter la parole de Dieu, l'évangile, parce qu'il y a peut-être quelque chose pour toi, t'as un besoin particulier, t'as un problème particulier, Dieu peut répondre à ça. Mais parce qu'on a été forgé depuis tout petit, depuis notre enfance, que ce soit par nos traditions religieuses, par la religion en tant que telle, ou par l'éducation de nos parents, bref, on s'est fait une conception de la vie. Et souvent dans notre conception de la vie, on a tout rejeté. On a rejeté Dieu, on a rejeté l'Église, on a... Et à la limite, je suis d'accord avec vous, il y a des choses à rejeter. Parce que moi aussi, j'ai rejeté un certain nombre de choses dans le domaine spirituel, parce que ça ne correspondait pas à mes attentes. Parce que ça ne m'apportait pas ce dont j'avais besoin. Et quand je regarde aujourd'hui encore... certaines conceptions de l'Église, je me dis, mais ça ne correspond pas du tout à ce dont j'ai besoin. Moi, j'ai besoin d'une foi vivante, j'ai besoin d'une relation directe avec Dieu. Pourquoi tant nous affliger d'intermédiaires, de choses compliquées? Pourquoi nous présenter un Dieu qui est si lointain, si difficile d'accès, qui n'est pas disponible pour chacun d'entre nous? On finit par avoir dans l'idée que, finalement, on est tellement de milliards sur cette terre que, si Dieu peut s'occuper des plus pauvres, finalement, nous, on s'en sort bien tel que l'on est. Il ne peut pas être de partout. Mais c'est faux. Dieu, d'abord, il est partout. Il est omniprésent. Il est partout à la fois. Et il a la faculté, la capacité de s'occuper de tout le monde à la fois. Y compris de vous, cet après-midi. Parce que pendant que nous, on est en train de prêcher l'Évangile, il y en a d'autres dans d'autres pays, ils dorment. Mais dans d'autres pays, ils sont en train de faire des réunions de prière, etc. Et Dieu est là-bas avec eux aussi, il les accompagne. Et puis dans d'autres endroits, en France et dans d'autres pays, il y a des hommes comme moi et peut-être des femmes et d'autres personnes qui annoncent l'Évangile, qui prêchent, qui témoignent, qui distribuent des prospectus, des tracts, qui font toutes sortes de choses, qui chantent, qui louent le Seigneur, pour dire « mais il y a un Dieu qui vous aime ». Et Dieu est avec eux aussi, là-bas, en ce moment même. Et il est en train d'agir, peut-être même en ce moment, dans certains pays, il est en train déjà de guérir, de manifester sa puissance, sa gloire. Il baptise du Saint-Esprit, il relève des hommes et des femmes qui sont complètement écrasés, qui sont découragés, en pleine dépression, qui n'en peuvent plus. Et il est en train de les soulager, de les aider, de les fortifier, de les bénir abondamment. C'est l'œuvre de Dieu. Et il le fait, il est partout, et il est là. Il est là aussi avec nous, cet après-midi. Et il veut faire, c'est ça qui est formidable, la même chose. Il veut vous bénir. La volonté de Dieu, c'est de vous bénir. Ne pensez pas surtout que si vous avez un problème, une difficulté particulière, on parle de la guérison divine, donc je vais parler d'une maladie, par exemple physique. Ne pensez pas que si vous avez, je ne sais pas moi, un enfant handicapé ou une personne dans votre famille qui est handicapée ou qui a une grave maladie, qui est là peut-être aux portes de la mort, ne pensez pas que si vous vivez cette difficulté-là, c'est parce que Dieu vous a puni. C'est pas du tout ça. Dieu ne vous a pas puni. Mais il y a bien d'autres explications spirituelles. On en a vu une partie ce matin et on va en voir d'autres tout à l'heure. Mais j'aimerais vous dire que dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, il y en a un qui cherche, c'est le père du mensonge, à nous tromper continuellement, à nous mentir. Pourquoi? Pour que nous ne saisissions pas justement ce que Dieu a prévu pour nous. Pour que nous ne puissions pas saisir par la foi la guérison, la délivrance, la libération qu'il veut nous accorder à chacun d'entre nous. On a entendu un témoignage ce matin, on pourrait les multiplier ces témoignages d'hommes et de femmes qui à un moment donné, pour un problème physique dans leur vie, ont reçu de la part de Dieu une guérison. Ça se passe de différentes manières, ça n'a pas d'importance. Lorsque j'étais à Nîmes il y a quelque temps, à une réunion comme celle-ci, à la fin de la réunion, alors que je faisais un appel pour ceux qui avaient besoin de la guérison divine, une femme est venue et j'ai prié pour elle. Je ne savais pas ce qu'elle avait. J'ai mis mes mains sur elle et comme la Bible l'enseigne, ils imposeront les mains aux malades. Et on a prié. Moi, j'ai rien ressenti. Mais elle, dit-elle, elle a ressenti comme une puissance, une chaleur dans son ventre, dans son dos. Quelque chose qui s'est passé en elle. Et comme notre frère ce matin, elle a eu la conviction qu'elle était guérie. Elle avait un ulcère cancéreux à l'estomac. Ça faisait des mois qu'elle avait cette situation, Quelques semaines auparavant, elle avait été voir son médecin, elle travaillait dans un hôpital, elle a été voir son médecin, elle lui a dit « J'ai de gros soucis parce que je fais du sang maintenant et j'aimerais savoir ce qu'il y a. » Et le médecin l'a disputé parce que ça faisait des mois qu'elle connaissait sa situation. Et le médecin lui a dit « Mais si vous étiez venu tout de suite, on aurait pu faire quelque chose. Maintenant, c'est tard. C'est tard et vous allez supporter. Bien sûr qu'on va commencer un traitement, mais c'est trop tard. Pourquoi vous n'êtes pas venu tout de suite ?» Elle n'osait pas, elle n'avait pas envie, elle était dérangée, gênée. Bref, le médecin a constaté de manière très claire ce qu'elle avait. Et le vendredi soir, elle est venue à la réunion, on a prié pour elle. Et elle a eu cette conviction qu'elle a été guérie. Elle ne supportait même pas de boire un verre de coca. Un verre de coca, ça la mettait dans un état épouvantable. Quand elle est sortie, et souvent je dis heureusement qu'elle ne me l'a pas dit, parce que moi je ne lui aurais pas dit de le faire, et je lui aurais certainement déconseillé, c'était une antillaise, et elle a été acheter un paquet de piments. Elle a dit « Je suis guérie. Alors je vais faire comme avant, je vais remanger les piments. » Et sa foi, son assurance de savoir que Dieu avait agi, et comprenait que ce n'était pas simplement une fabulation, ou une idée qui lui est passée par la tête, parce que peut-être elle serait morte à cause de ça. Mais sa conviction, et ce qu'elle avait ressenti pendant cette réunion, à ce moment où on a prié pour elle, elle a dit « Je suis guérie ». Elle a mangé un bol de piment le soir. Même moi, pas malade, ça passe pas. Et elle, je sais pas comment elle a fait, mais bref. Ils sont nés comme ça avec, hein. Ils les mettent dans les biberons. Et ça n'a rien fait. Elle n'a eu aucun souci. Elle n'a rien dit. Et la semaine d'après, elle est venue me voir, elle m'a raconté cela. Alors je lui dis maintenant, vous allez voir votre médecin et vous faites constater par le médecin votre situation, ce qui s'est passé. Et son médecin lui a dit, je ne peux pas vous l'expliquer, mais cet ulcère cancéreux que vous aviez, le sang que vous faisiez, eh bien, il n'y a plus rien. Ça a disparu. Vous êtes entièrement guéri. Dieu guérit encore aujourd'hui. Il manifeste encore sa puissance avec efficacité et avec force. À nous aussi de le croire, d'avoir la foi, tout simplement. Mais à nous aussi de ne pas nous laisser tromper. Tromper par justement toutes ces choses que nous voyons, les guérisseurs, les magnétiseurs et tout un tas d'autres choses qui sont là. Parce que ça, c'est pas gratuit. Un jour, un pasteur est allé voir un grand sorcier en Afrique. C'est un de nos missionnaires qui se trouve là-bas et qui travaillait au Burkina Faso, au Niger, etc. Et un jour, il est allé voir ce sorcier, donc, et il lui a dit, mais qu'est-ce qui fait que des bus entiers venaient devant lui pour faire descendre des quantités de personnes pour qu'il les guérisse? Et ce sorcier a avoué. Il a dit, oui, c'est vrai, j'ai une puissance. Une puissance qui guérit. Toutes sortes de maladies. Mais il dit, il y a autre chose dont je ne peux pas me séparer. J'ai une autre puissance, mais celle-là, elle détruit. Et au fur et à mesure que les gens descendaient du bus, ils savaient, il y avait, comme la Bible nous dit, dans les actes des apôtres, il avait comme un esprit de Python. Cet esprit de Python, c'est un esprit de divination. Et il avait cet esprit de divinisation. Il savait les maladies des gens avant même qu'il ne leur parle de leurs problèmes, de leurs difficultés. Et au pasteur qui était à côté de lui, il lui dit, au missionnaire, il lui dit, tu vois cette personne là-bas? Elle a tel et tel problème. Elle va venir là. Je vais la guérir de la paralysie de son bras. Mais dans son foyer, dans quelques mois, il va se passer ça, ça et ça. Il prend une autre personne, il dit, voilà cette personne, elle a tel problème. Personne n'est venue. Elle a parlé avec ce sorcier, en présence du missionnaire. Et elle lui a dit exactement le problème qu'elle avait. Ça correspondait à ce qu'il avait dit au missionnaire. Mais après, il a dit au missionnaire, tu vois, dans tant de temps, elle va mourir de telle chose. Et c'était comme ça, continuellement. Le diable ne fait rien de gratuit. Tout ce qu'il fait a un objectif. Et son objectif premier, c'est de détruire notre âme. Alors il va s'y prendre de mille et une manières. Peut-être on va être dans l'abondance, ça peut être matériel, financière, tout ce que l'on veut. Son but, c'est que notre âme se perde. Alors il peut nous troubler par toutes sortes de situations qui sembleraient formidables pour nous, qui sembleraient agréables pour nous, mais il est là pour nous tromper. Il y a toujours un compromis, un échange, un marché, consciemment ou inconsciemment, entre le patient et le praticien, quand le diable est là au milieu et qu'il essaye de tromper celui ou celle qui est en face de lui. Alors, qu'est-ce que la guérison divine? Eh bien, c'est une guérison, tout simplement, qui vient de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est pas de simplement nous guérir physiquement d'un bobo ou d'un problème, peut-être même grave, ou d'une maladie grave que nous ayons, mais la volonté de Dieu, c'est de nous guérir corps, âme et esprit. C'est-à-dire que notre être soit pleinement dans l'harmonie. Et quelque part, à quoi servirait-il à un homme d'être guéri de son cancer si dans, je dirais, l'ambiance familiale dans laquelle il se trouve, c'est un enfer? Que servirait-il à un homme d'être guéri de telle ou telle maladie si finalement, en verrue, j'en ai plus. Il a conjuré le sort et c'est formidable. Est-ce que ta vie a changé? Est-ce qu'aujourd'hui tu es vraiment heureux? Est-ce qu'aujourd'hui tu vis en paix? Est-ce qu'il y a une véritable harmonie? Est-ce que tu es vraiment en paix avec toi-même déjà, et puis avec les autres? Est-ce que tu vis dans une joie, dans une félicité, dans une exaltation? Chaque jour, est-ce que tu es heureux de te lever et de marcher dans cette vie? Est-ce que tu supportes la vie? Ou est-ce que tu la prends en pleine main et tu avances comme un combattant qui dit, mais coûte que coûte, peu importe ce qui peut arriver, je continue à avancer? Ou est-ce que tu supportes cette vie, angoissée, perturbée, écrasée tout le temps par toutes les situations que nous pouvons traverser les uns et les autres? La guérison de Dieu, c'est une guérison. La guérison divine, c'est une guérison qui vient de Dieu. Et c'est une guérison qui ne touche pas simplement le corps, il touche aussi l'âme, elle touche aussi l'esprit. Et le chrétien, véritablement, ou le croyant éclairé, ne devrait pas se laisser tromper par toutes les imitations du diable, quoique malheureusement, parfois, c'est le cas. Quel est le but de la guérison divine? Dans Marc, au chapitre 16 et au verset 20, il nous est dit ceci. « Et ils s'en allaient à prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et il confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. » Le but de la guérison divine, c'est de confirmer la parole de Dieu. C'est d'accompagner le message de l'Évangile par des signes, par des prodiges et par des miracles. Et nous avons bien besoin aujourd'hui encore que la parole soit accompagnée par la puissance de Dieu. L'apôtre Paul, quand il se trouve chez les Corinthiens, va dire ceci, il dit « Je ne suis pas venu avec une supériorité de langage. » Il dit « Je suis venu avec la puissance de Dieu et par une manifestation de puissance au milieu de vous. » Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous amener à cette foi. Ne croyez pas que moi, je suis un grand guérisseur. Ne croyez pas que j'ai des pouvoirs extraordinaires et que parce que l'imposition des mains existe et parce que je vais mettre ma main sur vous, c'est ça qui va vous guérir. Non, ça marche pas comme ça. Bien sûr que notre vie a une responsabilité et on peut pas nous déresponsabiliser. Et dans l'enseignement qu'il faut donner, c'est réel et c'est biblique. N'importe qui n'impose pas les mains et on le verra. Mais c'est la foi, véritablement, en Jésus-Christ qui va vous amener à recevoir pleinement la guérison dans votre corps, votre cœur, votre esprit et votre âme. Nous avons vu ce matin que c'est le sacrifice de Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus. C'est les meurtrissures de Jésus qui ont pris nos souffrances, nos douleurs et toutes nos maladies. Quelqu'un m'a posé la question, il m'a dit, mais Dieu guérit quelle maladie? Que dit Ésaïe? Ésaïe dit que Jésus s'est chargé de toutes nos maladies. Ça veut dire qu'il n'y a aucune maladie sur cette terre dont Jésus ne s'est pas chargé. Il a pris toutes les maladies. Toutes ses origines, peu importe lesquelles, il a pris toutes les maladies. Il a pris toutes nos douleurs. Il s'est chargé de tout. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9, et au verset 8, il est dit ceci, quand la foule vit cela, les prodiges, les miracles, qu'est-ce qui s'est passé? Elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. C'est ici question de la guérison d'un paralytique. Et quand la foule a vu un paralytique se lever. Vous avez déjà vu un paralytique être guéri? Lorsque j'étais à Toulouse, nous avons fait venir un missionnaire, Eugenio Jiménez, qui est un missionnaire, un pasteur de nos assemblées à Porto Rico. Et il est venu en France pour 3 mois de mission. Il y avait des soirées pratiquement chaque jour de la semaine d'évangélisation, de témoignage. Et à un moment donné, dans la foule, il y a eu un fauteuil roulant lors du moment de l'appel qui s'est approché. Une femme était assise dans ce fauteuil roulant. Et son mari était derrière, la poussait. Il y avait une foule de personnes qui étaient là. Il y avait eu déjà différents témoignages de guérison où Dieu s'était manifesté. Et le missionnaire est descendu. Il a regardé cette femme et il a commencé à prier pour elle. Les chrétiens qui étaient là priaient également. Et à un moment donné, il l'a prise par la main. Il lui dit maintenant, au nom de Jésus, tu te lèves. Et cette femme qui avait une sclérose en plaques, qui était pratiquement à un stade final, elle s'est mise debout, droit sur ses pieds. Et elle a commencé à marcher. Alors c'était au début un peu difficile, comme ça. Mais son mari était derrière. Il était stupéfait. Il était étonné. Il était là. Il ne savait plus quoi dire, quoi faire. Il était comme figé. Il voyait sa femme qui, depuis toujours, était là, paralysée. D'un seul coup, il se retrouve debout. Et dans sa joie, c'est lui qui l'a prise par la main. Il lui a fait faire au moins 10 fois le tour de l'église. L'église de Toulouse, au minimum où on était à l'époque, elle doit faire peut-être 7 ou 8 fois ou 9 fois la superficie d'ici. Il la faisait tourner. Elle marchait. Dieu venait d'intervenir dans le corps de cette femme et la guérir complètement. Mais j'aimerais vous dire que être guéri d'une paralysie ou être guéri d'un cancer ou être guéri d'un rhume, pour moi c'est la même chose. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer de quelle manière Dieu a pu guérir cette femme d'une paralysie? Est-ce qu'on peut expliquer comment Dieu est capable de guérir un homme ou une femme d'un cancer? Je suis incapable de vous expliquer comment ma fille a été guérie de la leucémie. Mais ce que je sais, c'est qu'elle a été guérie et que les médecins n'ont rien pu faire après. Et ne rien dire. Parce qu'elle est rentrée avec des examens et elle est ressortie avec des examens et les deux choses étaient opposées. On a un Dieu qui est merveilleux. On ne sait pas comment il le fait. On ne sait pas comment il va guérir un rhume ou n'importe quoi d'autre, peu importe. Vous allez me dire un rhume quand même, aujourd'hui on va à la pharmacie, on prend des cachets. Mais c'est pour vous donner simplement un exemple. Pour Dieu, une maladie est une maladie, petite ou grande. Je suis incapable de vous expliquer comment il fait pour guérir. Ce que je sais, c'est que si on a la foi, il guérit. Il transforme nos vies, il change toute situation. Et je m'attends dans mon cœur à ce que, suite à de tels messages et de telles études que nous faisons ensemble, Dieu manifeste sa puissance dans nos corps et dans nos vies. Attendez-vous à ce que Dieu guérisse. Et c'est la foi que j'aimerais vraiment que vous puissiez saisir en lui, afin que vous puissiez recevoir toutes les promesses et toutes les grâces qui sont pour chacun d'entre vous. J'aimerais vous dire que Dieu vous aime, et que Dieu vous aime tellement qu'il ne veut pas vous voir souffrir. Le diable se plaît à vous voir souffrir, le diable se plaît à vous voir dans vos douleurs, à vous voir dans toute votre misère. Le diable rigole de cela. Il dit tant qu'ils sont là, je les écrase, je les escrase complètement jusqu'à ce qu'ils meurent. Mais la volonté de Dieu, c'est pas ça. La volonté de Dieu, c'est de vous sortir de cette situation et de vous amener à la vie, à une vie abondante, en pleine forme, en pleine santé, pour la gloire de Dieu. C'est Dieu qui guérit. Et nous ne détournons pas la gloire à un homme, quel qu'il soit. La gloire reste pour Dieu. C'est lui que nous bénissons. La guérison, elle est simple. Dans son acquisition. Ce n'est pas nos mérites. La Bible nous dit qu'elle fut acquise à la croix du calvaire. Matthieu 8,16 nous dit que le soir on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques, des hommes, des femmes qui étaient possédés, liés de toutes sortes de choses. La Bible nous dit qu'il chassa les esprits par sa parole. Vous voyez par quoi il commençait? Et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladie, alléluia. Je crois qu'aujourd'hui il y a des infirmités encore au milieu de nous. Et il y a des infirmités qui peuvent avoir toutes sortes d'origines. Nous avons vu ce matin qu'il pouvait y avoir des origines génétiques, mais il y a aussi des origines diaboliques, ténébreuses. Et alors nous avons à avoir du discernement pour prendre autorité, chasser des esprits démoniaques qui tient des hommes et des femmes dans toutes sortes de situations, aveuglement, surdité, mutisme, problème physique, problème de manifestation ou autre, Dieu est ce Dieu qui libère et qui guérit. Avec son efficacité, avec sa puissance. 1 Pierre 2, 24 nous dit, c'est lui qui a porté lui-même, nous disent la parole, la Bible, nos péchés en son corps, sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Comprenez une chose. Ce n'est pas parce que vous allez me donner de l'argent que vous allez être guéri. C'est pas parce que, bon, je ne vous le ferai pas, vous allez me donner votre numéro de carte bleue que ça va changer votre vie. Ça va peut-être changer la mienne, mais pas la vôtre. Ce n'est pas parce que vous allez, je vais dire n'importe quoi, mais faire le tour de cette église à genoux, comme une procession en disant, mais je fais ça pour toi, mon Dieu. Donc comme je fais des efforts, alors forcément, tu vas guérir maintenant. Non, ça ne marche pas comme ça. Et la religion a essayé de nous mettre dans toutes sortes de choses en disant, mais si vous faites ça, vous allez faire tellement d'efforts que Dieu qui est tellement amour, forcément, il va vous répondre. Mais nulle part dans la Bible nous trouvons cela. Nulle part. La Bible nous dit que nous n'avons pas à faire des efforts particuliers. Nous n'avons pas besoin de payer. Nous n'avons pas besoin de gravir des monts, des collines ou des montagnes à genoux, n'importe comment. On n'a pas besoin de s'auto-flageller pour que Dieu finalement daigne baisser le regard sur notre vie et nous accorder quelques grâces et quelques bénédictions. Jamais nous trouvons cela dans la Bible, jamais. Nous trouvons un Dieu qui est juste, nous trouvons un Dieu d'amour, nous trouvons un Dieu rempli de compassion, et nous trouvons un Dieu qui répond à une seule chose, la foi qu'il y a dans votre cœur, la conviction qu'il y a dans votre cœur. Et le désir véritablement de voir Dieu à l'œuvre dans votre vie. Souvent je prends cet exemple de ce jeune homme avec ce pasteur qui désirait faire une expérience avec Dieu. Il ne savait pas trop comment faire, alors il voulait Dieu, il voulait être sauvé, il voulait que Dieu le conduise, le dirige, mais en même temps il était partagé aussi avec tout ce que ce monde pouvait lui offrir. Alors, à un moment donné, il a été voir ce pasteur qui était un ami. Et je vous ai déjà raconté cette histoire. Ils sont partis dans un lac. Ils sont allés se promener, puis ils se sont baignés. Et dans le lac, le pasteur a pris cet homme et ce jeune homme, il l'a enfoncé dans l'eau pendant quelques secondes. Alors bien sûr, le jeune homme, à un moment donné, voulait remonter parce qu'il ne pouvait plus respirer. Mais il l'a tenu simplement quelques secondes et puis il l'a relâché. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu m'as enfoncé la tête sous l'eau? Et le pasteur lui a dit, qu'est-ce qui te manquait terriblement quand tu étais sous l'eau? Il dit, mais la seule chose à laquelle je pensais, c'était de l'oxygène, de l'air. Il fallait de l'air pour respirer. Il lui dit, mais tu ne pensais pas à ton compte en banque? Il dit, non, c'est je pensais uniquement à vouloir respirer. Tu ne pensais pas à tous tes amis, à tous tes copains, à toute ta famille, à toutes les fêtes, à ce qui t'attend ce soir? Il dit, mais enfin, quand j'étais sous l'eau, la seule chose qui m'importait, parce que tu me tenais, c'était de respirer. Et ce pasteur l'a regardé, il lui a dit, quand tu chercheras Dieu de la même manière, tu le trouveras. Et je crois que trop souvent on est partagé, voyez. On veut Dieu, mais on veut tout le reste avec. On veut tout prendre en même temps. Mais Dieu dit, qu'est-ce que tu veux? De quoi tu as besoin? Qu'est-ce que tu désires? Si tu as besoin de quelque chose de particulier, viens. Viens le trouver. Viens le rechercher. Mais pense qu'à ça pendant un temps. Saisis-le et prends-le pour toi. Et Dieu te le donnera. Cherche-le, l'Abbé nous dit, de tout ton cœur. Cherchez. Vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Il vous ouvrira, il vous accordera ce dont vous avez besoin. Et nous allons voir ensemble quelques textes. Alors comment être guéri? Qu'est-ce qu'il nous faut pour être guéri? Ben, je vais terminer avec cela. Première chose, il nous faut la foi. La foi pour être guéri. Et pour avoir la foi, il faut être nourri de ce qui communique la foi. Et ce n'est pas peut-être en lisant toutes sortes de livres sur la psychologie ou autre que la foi va être saisie dans votre cœur, non? Mais par contre, si vous écoutez la parole de Dieu, si vous vous instruisez avec ce livre, la foi va naître dans votre cœur. Et quelque chose d'extraordinaire va se passer. Et là, vous allez commencer à découvrir, parce que la Bible nous dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Pas de n'importe quel livre, de la parole de Dieu. Pas de la parole d'un homme, non, de la parole de Dieu. La Bible. Commencez à lire la Bible, et vous allez voir comment Dieu est capable de répondre par la foi, à votre foi. Romains 10, 17 nous parle de cela. Et puis le Seigneur nous a laissé des promesses pour stimuler notre foi. Dans Exode au chapitre 15 au verset 26, il est dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, la voix de Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, deuxième chose, Troisième chose, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et quatrième chose, si tu observes toutes ces lois, qu'est-ce qu'il est dit? Il dit alors, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, parce que je suis l'Éternel qui te guérit. J'ai mis, voyez, volontairement, pour ceux qui connaissent la Bible, l'intégralité de ce verset. Parce que nous, on s'arrête souvent sur la dernière partie. Oui, notre Dieu est l'Éternel qui guérit. Et on s'arrête là. On ne va pas plus loin. Oui, c'est vrai. On ne dit pas des erreurs, des choses fausses. Il est l'Éternel qui guérit. Si tu écoutes, si tu fais, si tu prêtes l'oreille, si tu observes, alors il est l'Éternel, il est le Dieu puissant qui guérit. Et j'aimerais vous dire que c'est encore valable pour nous aujourd'hui, même si c'est un texte de l'Ancien Testament. Parce que dans Hébreux, chapitre 13, verset 8, il nous dit que Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Donc ce qui a été dit un petit peu plus précédemment, eh bien, c'est valable encore pour nous aujourd'hui, puisque Dieu ne change pas. Il est le même. Et c'est sa parole, la conviction, la foi est identique. Marc 1,40 nous dit, un lépreux un jour vint à Jésus, et il s'est jeté aux genoux de Jésus. Et il lui dit d'un ton suppliant, « Mais si tu le veux, tu peux me rendre pur !» La Bible nous dit qu'à ce moment-là, Jésus a été ému de compassion, il étendit la main, et il a touché ce lépreux, et il lui a dit, « Je le veux, sois pur !» Et la Bible nous dit que aussitôt après, il fut purifié, guéri, transformé. Un autre texte nous dit, c'est pourquoi je vous dis, écoutez bien, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Souvent, je pose la question à des gens qui prient et je leur dis, est-ce que quand vous priez, vous vous attendez vraiment à ce que Dieu vous bénisse? La réponse que j'entends souvent, c'est, j'espère. Dieu ne nous parle pas d'espérer. Il nous dit, crois. Crois. Et tu verras les choses s'accomplir. Vous savez, les animaux, ils sont beaucoup plus croyants que nous. Hein. Les plus grands corbeaux, les plus grands croyants, c'est les corbeaux. Sans un mail, ils font croire, croire, croire. Ils nous parlent quelque part. Hein. La Bible nous dit que la nature nous parle. Et je crois que la nature nous parle. Hein. Et sans arrêt, ils nous disent crois, crois. Et la foi, et une pleine conviction. Ne dis pas simplement, j'espère que Dieu va faire quelque chose. Non, tu t'approches de Dieu et tu dis, oui, il va faire quelque chose. Même il est en train déjà de faire quelque chose. Il est en train de me guérir. La deuxième chose qui est importante, c'est la prière. La foi, premièrement. Deuxièmement, la prière. Que l'on ne peut dissocier, bien sûr, de la foi. Parce que la Bible nous dit que la prière sans la foi, ça vaut rien du tout. L'évangile de Jean, chapitre 14, verset 13, nous dit que tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Pourquoi ? Afin que le Père soit glorifié dans le Fils de Jésus-Christ. Dans l'évangile de Matthieu, il est dit, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Les questions encore de la prière. Et dans Matthieu, chapitre 7, verset 11, il est dit, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, alors à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui, quoi? Qui le lui demandent. Est-ce que tu t'es déjà adressé à Dieu, véritablement? Comme on dit parfois, il vaut mieux s'adresser à Dieu qu'à ses saints. Et parfois, bien des hommes et des femmes disent, mais moi je me suis adressé à plein de choses. J'ai fait brûler des quantités de cierges, j'ai prié des quantités de saints, jamais rien ne s'est fait. Mais c'est pas ça qu'il faut prier. La Bible nous enseigne la prière. Tu pries Dieu au nom de Jésus-Christ. Et ça, c'est important. Prier au nom de Jésus-Christ, c'est pas une formule magique. Pas du tout. Le fait de prier au nom de Jésus-Christ nous ouvre l'accès au ciel. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas accéder à Dieu directement. La Bible nous dit que Dieu est saint, que Dieu est pur, et nous sommes des pécheurs. Nous ne pouvons pas accéder directement à Dieu et vivre. Si nous accédons aujourd'hui directement à Dieu, nous mourrons. Par contre, il y en a un qui, lui, était sans péché. C'était le Fils de Dieu. Et lui, aujourd'hui, parce qu'il a accompli, nous donne à nous accès à Dieu lui-même, à Dieu le Père. Et c'est pour ça que nous prions au nom de Jésus. C'est pas un leitmotiv, c'est pas une parole magique, c'est pas quelque chose qui va faire un, comment dirais-je, une parole magique, une parole particulière qui... C'est pas la caverne d'Ali Baba. C'est le nom qui nous permet d'entrer tout simplement en contact avec Dieu et d'entrer dans la présence de Dieu, puisque la Bible nous explique que c'est lui qui, par son sang, nous a rachetés et nous permet de rentrer pleinement en contact avec Dieu. Alors la prière, et puis troisièmement, ce qu'on appelle l'imposition des mains. Et l'imposition des mains, il nous est dit dans Marc au chapitre 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et un peu plus loin, il est dit, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Parce qu'il accompagne le message. J'aimerais dire que tout le monde n'impose pas les mains suivant les évangiles ou les actes. Il y a un certain nombre de choses à respecter. La première chose, je crois, c'est qu'il faut être rempli de l'Esprit. Luc 4, 18 nous dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, dit Jésus, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Est-ce qu'il y en a qui ont le cœur brisé? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour guérir vos cœurs brisés. Il m'a envoyé, dit-il, pour proclamer aux captifs la délivrance. Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont comme esclaves, liés par certaines pensées, par certaines actions, par certaines manifestations dans votre vie? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour vous délivrer. Et la Bible nous dit, il est venu pour, et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Et s'il y avait au milieu de nous des gens qui étaient aveugles, Jésus est venu pour redonner la vue, renvoyer libres les opprimés, et pour publier une année de grâce. Acte 10, 38 confirme cette pensée en disant que vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Jésus est là. Et quand nous prions et que nous imposons les mains, nous l'imposons au nom de Jésus. On pourrait dire, est-ce que l'imposition des mains est interdite aux chrétiens? Non. Je dirais que dans un élan de foi, des chrétiens ont été guéris. Et nous n'avons pas à juger de cela. Mais nous devons prendre en considération qu'il existe un danger. Certains se sont vus pousser des ailes de pasteurs, de guérisseurs ou de toutes sortes de choses. Ils se sont vus avoir le don des miracles et toutes sortes de... Non, il faut faire attention, il peut exister un danger. Maintenant, bien sûr, c'est ouvert à tous ceux qui se sont engagés avec Dieu pleinement et qui sont conscients de ce qu'ils font, de ce qu'ils sont en train de faire. Dans Actes 19, au chapitre 13, il est question des sept fils de Séva qui, eux, voulaient pratiquer la même chose que ce qu'ils avaient vu. Mais quand ils se sont confrontés à une situation où dans la personne qui était en face d'eux, il y avait un esprit impur, ils ont été mis en pièces et il a été dit, mais l'esprit a dit, mais je sais qui est Jésus. Je sais quel est l'apôtre Paul, mais vous, vous êtes qui? Qui es-tu? Il y a donc un danger pour celui qui le fait et pour celui qui se laisse faire. Et nous devrons apprendre à vivre, à comprendre cela et à avancer et à se laisser qualifier par Dieu pour aller plus loin dans cette dimension. J'aimerais vous amener vraiment à comprendre ce soir que Dieu est vivant, que Dieu se manifeste avec puissance et que cet après-midi, parce qu'il vous aime, il veut agir dans votre cœur et dans votre vie. Je vais vous inviter, si vous le voulez, on va prier ensemble pendant quelques instants. Vous savez, Dieu est capable de faire de grandes choses. Il est capable d'agir avec puissance. La Bible nous dit, rien n'est impossible à Dieu. La Bible nous explique que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je ne connais pas votre problème, je ne connais pas la situation qui est la vôtre. Ce que je sais, c'est que Dieu, lui, la connaît bien mieux que moi. Et ce que je sais aussi, c'est que lui, non seulement il connaît votre situation, mais en plus, il a la solution. Il a la réponse. Il a déjà l'action qu'il veut vous apporter pour toucher votre cœur et toucher votre corps. Comprenez que pour Dieu, c'est important, c'est vrai, que vous soyez complètement guéri, changé, transformé. Mais comprenez que la guérison est importante aussi pour lui, qu'il souhaite vous guérir, vous, ou ceux qui vous sont chers, ceux qui sont avec vous. Mais comprenez aussi que ce que Dieu désire, c'est toucher aussi votre cœur, toucher votre âme. Ce qu'il voudrait, c'est que vous puissiez accepter dans votre cœur, dans votre vie, la personne de Jésus-Christ. Il souhaiterait que vous puissiez vraiment aller plus loin dans cette compréhension de sa parole et que vous puissiez vous laisser toucher par lui. Que vous approchiez de lui avec vos difficultés, vos problèmes, tels que vous êtes. Seigneur, tu vois ma situation, tu vois ma vie, tu vois mon problème. S'il te plaît, interviens. J'ai besoin de toi. Est-ce que ça pourrait être ce soir le cri de votre cœur? Est-ce que ça pourrait être ce soir un désir profond qu'il y a en vous? Je crois que si, devant Dieu, il voit ce désir, cette volonté, comme ce garçon qui avait besoin d'oxygène, si vous êtes tel que lui, alors Dieu va voir cette volonté qu'il y a dans votre cœur. Il va étendre sa main sur votre vie. Il va vous toucher, vous relever et vous guérir. J'aimerais que nous puissions fermer nos yeux quelques instants, s'il vous plaît, dans le respect que nous offrons. Nous allons prier ensemble, le Seigneur. J'aimerais vraiment vous amener dans ce contact avec Dieu, à venir tel que vous êtes. Parce que Dieu vous accepte tel que vous êtes. J'aimerais pendant ce moment prendre quelques temps. Ou dans votre cœur, peut-être vous pouvez parler à Dieu. Et lui dire, voilà ma vie. Voilà la situation que je vis, voilà ce que je fais. J'ai besoin de toi. Transforme ma vie. Transforme mon être. J'ai besoin de te connaître un peu plus, davantage. Faire une expérience avec toi. Aller plus loin. Change-moi, Seigneur. Et puis, guéris-moi. Guéris mon enfant. Guéris mon mari. Guéris mon épouse, guéris cet ami, étends tes mains, glorifie-toi, montre-toi. Dieu de grâce, nous sommes là à tes pieds. Et je voudrais t'apporter cet après-midi toutes ces personnes qui sont là, tous ces amis. J'aimerais, Seigneur, vraiment que tu puisses étendre tes mains sur eux maintenant. J'ai prêché bien faiblement ta parole, maladroitement peut-être, mais toi tu n'es pas maladroit et tu es puissant. Alors avec puissance, maintenant je te demande de venir et de descendre dans ce lieu. L'Esprit de Dieu descend et vient, et accomplit ton ministère de transformation, de guérison, de changement, dans le nom de Jésus. Tu es là, et au nom de Jésus, je veux prendre autorité maintenant sur tout esprit de maladie. Au nom de Jésus. Tout esprit qui tiendrait des hommes et des femmes en toutes sortes de liens, toutes sortes de maladies, toutes sortes de pressions, toutes sortes de tourments, toutes sortes d'infirmités. Au nom de Jésus, je vous ordonne de lâcher ces hommes et ces femmes maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur, tu manifestes ta puissance et tu manifestes ta grâce maintenant, dans le cœur et dans le corps de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants qui ont besoin de toi. Nous attendons maintenant à l'action de ton esprit et à ton œuvre. Qu'un esprit de foi nous saisisse et nous amène dans une pleine conviction de ce que tu es capable d'accomplir. Dans le nom de Jésus. J'aimerais pendant ce temps, alors que nous restons dans la prière quelques instants, inviter ceux qui ont besoin d'une guérison physique, morale, psychologique, peu importe. J'aimerais vous inviter. Vous qui avez un besoin particulier dans votre corps, si vous voulez que l'on prie ensemble maintenant, alors j'aimerais vous inviter tout simplement à vous lever et à vous approcher sur le devant. De venir là, et ensemble nous allons prier. Spontanément, si vous avez besoin de Dieu, approchez-vous. On va croire maintenant que Dieu est en train de se manifester avec puissance. C'est par la foi que nous nous approchons. Comme je le dis, on n'est pas au spectacle, on est là devant Dieu. Et c'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui manifeste. Il est présent, il est là. Nous nous attendons à lui. Vous avez un besoin, quel qu'il soit. Vous avez besoin que Dieu vous touche maintenant. Alors on va s'attendre à la manifestation de Dieu et on va s'approcher de lui avec foi et avec confiance. S'il y a d'autres personnes, pendant que je prie, levez-vous, approchez-vous sur le devant et nous prions ensemble.